Je vous invite à rester en méditation comme ça. Je voulais parler, entre autres, aujourd'hui un peu de l'attention aux pensées. Puis donc, comme on est en méditation maintenant, on pourrait faire un petit exercice autour de ça. Alors, je vous invite, si vous voulez, à essayez de voir si vous pouvez devenir conscient de la prochaine pensée, dès son apparition. Et de la même façon, de la suivante, si une pensée se présente, ou plusieurs. Est-ce que c'est possible pour vous d'être pleinement conscient et de voir naître, apparaître la pensée? Il s'agit d'une parole prononcée ou entendue, d'une impression, d'une image. Si la prochaine pensée est une image, est-ce que c'est une image fixe ou mobile, mouvante? Qu'est-ce qu'il y a entre les pensées? Vous pourriez aussi peut-être identifier, si vous voulez, le type de pensée, commentaire, planification, rêverie, pensée reliée au passé, au futur. Vous pourriez, si vous voulez, aussi les compter, les additionner les unes derrière les autres. Je vous invite maintenant à penser délibérément la pensée suivante. Je suis, et là mettez votre prénom et nom de famille, et je médite. Je suis, et je médite. Et sentez cette pensée-là, répétez-la quelques fois en vous. Répétez-la encore quelques fois, laissant un petit espace entre les mots. Intéressez-vous à ce qui se passe dans cet espace-là. penser encore quelques fois cette pensée, mais maintenant retirez la dernière partie de la phrase. Gardez seulement votre nom de famille, là. Je suis. Continuez à penser cette pensée, mais retirez le nom de famille maintenant. Retirez le prénom. Retirez le verbe. Laissez tomber même le premier mot. Alors juste quelques mots, un petit exercice pour inclure dans le champ de notre attention là, les pensées, la production de pensées. Là, le monde des sens, on inclut ça, là, les sensations, les sons, le goût, etc. Les états mentaux, même un peu, on a parlé un peu de la notion de plaisir, des plaisirs qui fait partie de l'expérience humaine, les pensées. C'est d'ouvrir le champ de notre attention pour que tout soit inclus, que les pensées, par exemple, ne soient pas des obstacles à notre méditation, mais quelque chose qui peut être investigué, connu comme tel, très simplement. C'est probablement quelque chose que vous faites déjà, mais c'est bon de le mentionner, là, de l'inclure dans la retraite. Dans le travail avec la pensée, c'est toujours la même chose. On n'est pas intéressé par être dans la transe, partie dans les pensées, absorbé comme de la même façon qu'on embarque dans l'histoire quand on regarde un film. Là. On ne veut pas rester assis quand on regarde un film, à savoir qu'il y a un écran, que c'est de la projection sur un mur, qu'il y a du mouvement. C'est pas ce qu'on essaie de faire. Donc, quand on regarde le film, on veut vraiment rentrer dans l'histoire, là, être pris par l'histoire. Dans la pratique de la méditation, on est très intéressé par le processus de l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Alors, l'analogie là, du cinéma ne fonctionne plus parce que là, on est très intéressé à savoir qu'est-ce que c'est la production de pensée? Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des paroles prononcées ou entendues? Qu'est-ce que, dans le but de retirer peut-être du pouvoir aux pensées? Okay? Souvent, nous, on a une pensée, c'est égal, on n'expliquerait pas ça comme ça, mais c'est quand même comme ça qu'on le vit souvent. On a une pensée, pour nous, ça égale la réalité. C'est une description exacte de la réalité. On ne voit pas ça comme une production, une pensée, une suggestion, un angle de vue, un flash, un truc éphémère comme ça. On pense souvent que je suis assis là, je me dis « Ah, je suis con, vérité absolue ». Il n'y a pas de questionnement de ça, à moins qu'il y ait un peu d'attention. Ah, est-ce vrai ou pas? Ce qui est intéressant aussi avec le travail autour de la pensée, des pensées, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a entre les pensées. Souvent, pense que l'esprit, le mental, c'est principalement de la pensée, ou que c'est sa nature première, c'est de l'esprit, c'est de penser, alors qu'il y a, quelque chose qui peut être révélé là. Surtout si l'attention se raffine un peu, on devient plus attentif, on est moins agité, moins pris dans nos idées de comment on devrait être, comment on devrait méditer, n'importe quoi, là, ce qui se passe à la maison. Si on laisse tomber tout ce qui, l'expression classique là, dans les sutras, c'est tout ce qui concerne le monde. Si on laisse tomber tout, puis on fait juste s'attarder, prendre soin de l'expérience immédiate, si on s'attarde entre autres aux pensées, pas juste aux pensées, mais dans ce cas-ci, mais les pensées, on va voir que entre les pensées, peut-être il y a quelque chose qui est là, qui est vivant. Hein? Il y a de la conscience qui n'est pas en train de commenter ou de raconter une histoire ou d'organiser ou de faire des stratégies, de manipuler, de considérer, mais il y a quelque chose d'autre qui est juste là. C'est ce qu'on appelle parfois le témoin ou l'observateur. Un terme plus ou moins juste, là, parce qu'il y a une sorte d'identification. Hein. Mais il y a quelque chose qui connaît, là. Il y a quelque chose d'extrêmement simple qui fait juste révéler ce qui est là. On peut avoir accès à ça aussi à travers l'attention au sens, à l'expérience sensorielle. Alors, si je m'assois, je ferme les yeux, je sens les mains, ou en ce moment, on sent les mains. Une action très très simple. Alors, les sensations dans les mains, les picotements, le toucher, le chaud, le froid, quelque chose comme ça. Plus on se calme, plus notre attention se raffine ou s'approfondit. Alors, notre attention est plus comme un bouchon de liège à la surface de l'eau, mais plus comme une roche qui tombe, qui est au fond, qui va au fond des choses. Notre attention peut révéler pas juste les sensations, le picotement, le chaud, le froid, mais tout à coup quelque chose d'absolument transparent, sans forme, sans couleur, sans odeur, qui est révélé, c'est la conscience elle-même. Il y a quelque chose qui connaît ces sensations-là. Ou quelque chose qui devient ces sensations, qui révèle ces sensations-là. C'est assez subtil, mais en même temps, c'est absolument ordinaire, faisant partie de toute expérience, constamment là, souvent pas questionné ou pas révélé surtout. Je sais pas comment appeler ça, de l'intelligence, de la conscience, de la sensibilité, Alors ça, peut-être que c'est plus près de la nature de l'esprit, là. Cette conscience-là qui est là. Une des choses qui, moi, me touche dans la pratique de la méditation, du silence, dans la retraite, c'est comment cette chose-là peut tout à coup être... apparaître plus clairement. Elle était là tout le long, là. Mais là, tout à coup, ça devient... ça ressort. Je peux être touché par ça, découvrir ça, ce que c'est. Une partie, pour moi, qui est profondément touchante là-dedans, c'est que dans ma vie rapide de tous les jours, ma valeur vient beaucoup de ma capacité d'accomplir des tâches, de bien faire les choses, de les avoir faites au bon moment. Alors, je suis dans une évaluation régulière de moi-même par rapport aux choses à faire, aux choses à obtenir. Est-ce que j'ai obtenu ça? Est-ce que je définis par toutes sortes de choses. Quand je viens en retraite, tout à coup, il y a de l'être. Il y a de l'être, il y a du vivant, il y a du... Puis ça, c'était dans ma vie quotidienne, c'est un peu derrière. Ça compte pas autant que le fait qu'il faut que je sois à tel endroit, à telle heure, et que telle personne me dise finalement, etc. Et là, dans le silence, tout à coup, il y a... Wow! Il y a de l'être. Il y a quelque chose qui malgré que j'obtienne ou que je n'obtienne pas, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, en dessous de ça, il y a quelque chose qui est là, qui est vivant. Puis qui tout à coup peut, à laquelle je peux donner beaucoup, beaucoup, redonner sa valeur, une grande valeur, ou même en anglais, être en étonné, ébahi, touché au mystère, le merveilleux de ce truc-là. Qui était là tout le temps, mais il y avait trop de choses à faire. Là. Il y avait trop de trucs dont il fallait que je m'occupe pour me soucier du fait qu'il y a de l'être. Il y a de la sensibilité, il y a de la capacité de ressentir, d'être... Il y a quelque chose qui, derrière chacun des sens, au milieu de chacun des sens, pas juste voir pour obtenir de l'information, savoir où mettre les choses, etc., mais voir, il y a de la vie derrière ça. Est-ce que vous me suivez un peu ou je suis tout seul dans mon monde? Alors, dans la retraite, dans la pratique de la méditation, pour moi, même de façon quotidienne là, à la maison, si je m'assois sur le coussin, c'est peut-être un peu pour me rappeler de ça. Qu'il y a de l'être, qu'il y ait des échecs ou des réussites, que j'ai l'air trop jeune ou trop vieux, que j'ai bien parlé en m'exprimant parfaitement ou de façon très confuse. En dehors de tout ça, de toute évaluation, est-ce que je suis un bon parent, un mauvais parent, un bon fils, un mauvais fils... En dehors de tout ça, il y a de l'être. Puis c'est valable pour l'autre aussi. En dehors du fait que l'autre ait fait les courses ou non, et je ne sais pas quoi moi, compléter sa tâche ou non, j'aime me rappeler qu'il y a de l'être de l'autre côté. Parce que pour moi, avec ça, il vient une sorte de respect, de... j'ai le goût d'honorer ça, de... Puis là, oups, ça change la qualité de l'esprit, du cœur. Donc, dans mon truc-là, mon geste comme ça, il y a tout, il y a les sens, les états mentaux, les moods, les émotions, les qualités mentales, le plaisir, le déplaisir, les pensées, et oups, j'ouvre encore un peu plus grand là. Il y a la conscience aussi là-dedans. Il y a quelque chose qui est sans couleur, sans saveur, sans forme, mais... d'une certaine façon, qui prend la forme de ce qu'elle connaît, c'est ça, sa qualité, entre autres, pour connaître bien intimement les mouvements du ventre dans la respiration, le gonflement, le dégonflement. C'est bien que la conscience soit sans forme, pour qu'elle puisse épouser des formes, qu'elle devienne de la respiration, que la conscience devienne le chant d'un oiseau, que la conscience devienne... le toucher des mains, la chaleur des mains. Alors, dans notre pratique, on peut s'inviter à être conscient de ça, ou ça peut naître, apparaître, de venir à l'avant-plan de l'expérience. Je m'assois, je sens les pieds, dans le calme, la stabilité, toutes les qualités là, que j'essaie d'aligner, là, la curiosité. Des qualités calmantes comme la tranquillité, la stabilité ou l'équanimité, la concentration, des qualités qui calment et les qualités énergisantes, la curiosité, l'investigation, l'énergie elle-même, l'enthousiasme, tout ça. Quand ces qualités-là sont alignées, je peux sentir les pieds, rester avec les pieds, rester... pas les pieds, mais la rivière des pieds, je devrais dire, ce serait plus juste, la rivière des sensations, des pulsations qui sont là. avec le calme et la curiosité, l'attention soutenue, tout à coup, ah, mais il y a quelque chose qui connaît les pieds. Il y a quelque chose qui est là, au centre de l'expérience, qui fait complètement l'expérience, qui est cette connaissance-là, cette intelligence, je ne sais pas c'est quoi le mot encore, mais il y a du vivant, là. Alors ça peut être révélé. Quand les qualités mentales qui viennent dans le sillon de l'attention, généreuse, appliquée à nouveau, humble, dans le sillon de cette attention-là, il y a toutes ces qualités-là qui viennent tranquillement, qui se fortifient, qui se cultivent. Et une façon aussi de parler de la pratique, un genre d'arc, si je peux dire, de la pratique, c'est qu'on passe de, encore une fois, de nos idées sur les choses vers la rencontre réelle avec les choses et leurs qualités spécifiques. Hein? Alors, ah, ça c'est le froid. Ah là, je sens, quelqu'un disait, je sentais vraiment bien le froid aujourd'hui. Pas juste mon idée du froid. Le froid, ah, je connais ça, c'est fait. Mais le froid. Le froid, ah ça c'est froid, c'est pas chaud, c'est spécifique, c'est froid. C'est froid. Ah ça c'est sucré ou salé. Ah ça c'est spécifiquement. Ah ça c'est thym, le thym. Ça goûte comme ça, la tisane au thym. C'est spécifique, c'est pas de la tisane en général, c'est pas une idée, c'est ah. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? On s'approche vraiment, là, on devient très spécifique. Ah, ça c'est le calme. C'est très spécifique, ça c'est le calme. Ah, ça c'est le calme joyeux. Ça c'est le calme tristounet. Ah, c'est spécifique. Alors on part de nos idées des choses vers une rencontre avec les caractéristiques spécifiques des trucs. Ah, ça c'est, tout à coup c'est vert, ça c'est un certain vert, ce chandail-là. Ça c'est rouge ou orange, mais il y a une expérience spécifique qui ressort, là. Puis les gens, plusieurs d'entre vous avaient décrit ça, là. Tout à coup, les choses ressortent, les goûts ressortent, le visuel, tout à coup on est sensible à la luminosité, cette luminosité-ci, de cette heure-ci, c'est spécifique. Plus l'esprit se calme et est attentif, demeure très près des choses dans leur spécificité, plus tout à coup, d'autres caractéristiques vont apparaître. On va aller des caractéristiques, on va aller de nos idées sur les choses, nos idées préconçues. J'ai un prof, Christopher, qui disait, peut-être certains d'entre vous avaient travaillé avec lui, Christopher Titmus, qui disait, il utilisait une expression à lui, qui disait, il appelait ça « reactualizing memory ».« Reactualizing memory », il disait. On a une idée d'un arbre. Quand on voit un arbre, on sait que c'est un arbre. Ou un genre d'arbre. Ce genre d'arbre-là. Je connais ça. Puis là, il disait, nous, dans la pratique, on se calme, puis on se donne une nouvelle version d'un concept. Une nouvelle version de l'arbre. Ah tiens, tant qu'à avoir une idée mentale de l'arbre, pourquoi je n'aurais pas la dernière version, là, celle présente, là? Ça peut être beau parce qu'on peut faire ça dans notre vie avec les autres aussi. Mm. Je peux avoir la dernière version de mon collègue ou ma partenaire ou mon partenaire. Pourquoi pas tant qu'à y être? Parce que plusieurs d'entre nous, on fonctionne sur de très très vieilles versions des personnes. J'ai un de mes profs qui d'ailleurs, a une fois par année, ce qu'il raconte, il s'assoit avec son enfant. Ils s'assoient tous les deux dans le salon, en face de l'autre, et lui dit « Je ne suis pas ton père », son enfant dit « Je ne suis pas ton enfant ». Ils font c'est un exercice d'adulte, là. Et ils font juste, puis il dit « C'est incroyable parce que moi j'applique toujours une version sur cet enfant-là qui est comme je plaque, puis là tout à coup, il y a quelque chose qui ressort, il y a quelqu'un là, derrière ces yeux-là, il y a quelque chose de vivant, là, immédiat, là, pas mon idée, mais il y a de la vie, là. La même chose pour les deux Je sais, ça m'a touché quand il a raconté ça. Puis à ce moment-là, je travaillais avec. J'enseignais pendant un mois, une retraite d'un mois avec Carol Wilson qui vient. Parfois, je pense à Beat Hinberg. Mais vous pouvez l'entendre sur Dharma Seed, très bonne prof. Depuis que je pratique, souvent c'est elle qui m'a enseigné. Puis donc je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de faire cette pratique-là. Et j'enseignais à Spirit Rock. À cet endroit-là, il y a une petite salle pour les profs. Puis il y a une fenêtre, on voit bien les profs dans la salle. Donc quand j'arrivais pour travailler le matin, je voyais que Carole était déjà là. Puis là, je me disais, ce n'est pas Carole. Et là, j'ouvrais la porte, puis là, tout à coup, je voyais que j'étais un petit peu plus intéressé. Qui est là? Qui est Carole aujourd'hui? Tu sais, parce que c'est dynamique, ces personnes. C'est vivant. Alors, reactualizing memory, ou... J'ai un prof, d'ailleurs, mon premier prof de Dharma, qui se présentait pas comme tel, mais maintenant, c'est clair pour moi, il n'y a aucun doute. C'était plutôt un prof de drama, un prof de jeu. Et lui, je lui suis infiniment reconnaissant de cet enseignement-là, mais pendant 5 ans, je le voyais, je ne sais pas combien de fois par année, mais on faisait des ateliers d'un long week-end ou une semaine avec d'autres acteurs. Et pendant 5 ans, à chaque fois qu'on le voyait, plusieurs fois par jour, il disait toujours, c'était en anglais, là, mais il disait, « Hey, on n'a jamais été ici, maintenant, avant. » Et c'était toujours dans le même lieu, pendant 5 ans, le même lieu, à peu près le même monde, toujours. Puis lui, il revenait toujours, puis là, on faisait une scène, quelqu'un présentait une scène, un Marivaux, un Molière, un truc. Puis là, ça finissait, puis là, on revenait, puis là, il se mettait comme ça, puis là, il disait, « Wow, on n'a jamais été ici, maintenant, avant. We've never been here now before. » Puis on voyait qu'il y avait comme... Moi, il y avait plein de gens qui faisaient comme... Oh. Mais, puis moi aussi, j'avais le goût de faire, ben non, on a déjà été ici. Mais il y avait toujours quelque chose qui venait chercher. Puis je réalisais que, ah oui, c'était une nouvelle expérience. Avec mon attention superficielle, habituée, ennuyée, blasée un peu... Ben oui, c'est ça, ben, je vois. Même ici, là, on pourrait dire, bon, moi, ça fait 48 heures que je suis ici. Je n'étais jamais venu, bon, je connais le lieu, là, ça va, tu sais. Mais non, on n'a jamais été ici, maintenant, avant. On n'a jamais été ici, maintenant, avant. Ce n'est pas une possibilité, c'est nouveau. Puis donc, c'est cette instruction-là sur le regard frais, là. Beginner's mind. Comment... Imaginez si on était comme ça dans notre vie, là. Puis on le voit chez certaines personnes qui ont cette fraîcheur-là. Certains l'ont naturellement, d'autres ont développé ça, ont cultivé ça, ce regard frais. Et là, tout à coup, on peut découvrir les goûts, on peut découvrir les gens, on peut découvrir... Alors ça, c'est une pratique, là. Avec les étudiants à Montréal, j'enseigne sur le boulevard Saint-Laurent, qui est la main, qui divise l'Est et l'Ouest, très connu. Les gens marchent sur cette rue-là constamment. Puis je dis souvent, on ne connaît pas Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent, quand vous allez sortir du cours, là, c'est unique, parce que ce soir, il pleut, ce soir, il neige. Attention, soyez pas trop blasés en descendant les escaliers du métro Laurier. Faites attention, vous n'avez jamais descendu ces escaliers-là maintenant, avant. On pourrait très bien le faire de façon habituée. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment réclamer, dire qu'on était vivant après? C'est pas certain, ça. Alors, la pratique qu'on fait ici, c'est ça. On s'approche des choses dans leur spécificité. Même si ce sont des choses qu'on a déjà vécues, on ne les a jamais vécues spécifiquement maintenant, là. Cette vie-là qui va s'arrêter, là, qui a une finitude, là, cet être-là, ce vivant-là, là, cette sensibilité-là, il y a une date là-dessus. Là. Ça a une fin, ce truc-là. Alors nous, ce qu'on s'apprend, on se réapprend à faire, c'est à être un peu émerveillé, surpris à nouveau qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, c'est l'attention, la pleine conscience, qui amène un peu de curiosité, un peu de calme, un peu de stabilité, qui nous fait décrocher de nos idées sur les choses. Puis là, oups, tranquillement, on crée ce monde-là où tout à coup les choses ressortent. Tout à coup, on se sent vivant, en fait. Plusieurs d'entre nous voulons aller en voyage, faire des sports extrêmes pour être vivant à nouveau, pour être là. Puis le Bouddha semblait dire, non, c'est pas le vélo de montagne, mon grand, ma grande. C'est la qualité de ta présence qui compte. C'est pas l'activité elle-même, c'est l'esprit qui fait ce truc. C'est la qualité de l'esprit qui est là. Alors dans l'arc là, que j'essaie de décrire, on est pris dans nos pensées sur les choses, ce qu'elles devraient être, ce qu'elles auraient pu être, etc. On s'approche de plus en plus, on a une expérience spécifique des événements, un moment à la fois, un moment après l'autre. Puis là, tout à coup, on commence à toucher aux caractéristiques universelles. Ça, c'est un beau mouvement, là. Ce qu'on se met à voir, plusieurs d'entre vous connaissez ces caractéristiques-là. Ce qu'on se met à découvrir, sentir, toucher, connaître avec la conscience de façon intime, c'est le passage, entre autres, le fait que les choses passent. Si on s'intéresse aux pensées, on va voir qu'elles apparaissent et disparaissent. Si on s'intéresse aux états mentaux dont on parlait ce matin, on va voir que ces états-là fluctuent, apparaissent, disparaissent constamment. On va le voir avec les sensations, l'idée qu'on a du corps solide, c'est mon corps, c'est toujours été mon corps, je l'aime pas, il devrait être autrement. Tout à coup, on voit que, waouh, c'est dynamique, c'est une rivière de sensations. C'est comme ça, tout à coup, ça se lève debout, wow, c'est une autre expérience complètement. Ça marche, les pas, la lourdeur, la douce, la moellosité disparaît constamment. Une des pratiques que j'en parle un petit peu plus ces temps-ci, mais que je fais depuis peut-être une ou deux années, là, qui me touche beaucoup, c'est quand la méditation finit, comme ça, en groupe, certains d'entre nous, moi certainement, je joins mes mains comme ça, là, Anjali, juste comme ça pour reconnaître qu'on vient de créer un espace où il pouvait y avoir quelque chose de précieux là, qui pouvait naître. Mais quand je fais ça, j'essaie d'être très très présent, puis souvent j'ai l'impression que les 30 minutes de pratique avant étaient pour préparer ce moment-là, pour que je sois vraiment là, à sentir les mains, puis découvrir que cette expérience-là, quand j'arrive ici, elle est disparue, elle n'existe plus. Le moment de toucher, là, c'est fini, ça. Il y a une mort, là. Puis cette expérience-ci, quand j'arrive là, c'est fini, ça, cette expérience-ci. C'est non-existant. Puis de la même façon, en redescendant, le toucher qui est là, cette spécificité-là de ça, gone, fini. Et neuf aussi. Alors ça, c'est s'approcher, oui, du spécifique du toucher, mais de l'impermanence. Les choses disparaissent constamment. Vipassana, la sorte de méditation qu'on fait ici, insight en anglais, vision profonde en français, c'est pour révéler la nature impermanente, entre autres, des choses, mais pas de façon intellectuelle. Oui, on sait que les choses passent, on le sait, tout le monde le sait, on le sait. Pourtant, quand elles passent, certaines passent, on est en choc, on est surpris, on ne savait pas ça profondément. Dans la méditation, on est invité à découvrir ça profondément, et des choses sans importance, on pourrait dire, comme ça, c'est sans importance, on pourrait dire que ça disparaisse. Mais le jour où la santé va disparaître ou l'autre va disparaître, je veux avoir su, je veux connaître profondément la nature changeante des choses pour pas être en état de choc, pour dire « oui, je savais, je vis avec de façon intime la disparition ». Je peux aussi prendre du temps pour penser au fait que je vais mourir un jour, qu'il va y avoir la mort, mais ça va rester de la réflexion, ça va rester des pensées. Alors que pour moi, avec une présence de qualité, si je vois, je vis la disparition des choses, la mort des choses, c'est ma façon à moi de m'approcher de la mort pour dire oui, je la connais, j'ai vu les pas disparaître plusieurs fois, je les ai sentis, j'ai vu les idées disparaître, de façon intime. Alors ça, c'est une des caractéristiques spécifiques. L'impermanence, la fugacité, le côté éphémère des choses. Avec une attention soutenue, je peux voir mes identités, par exemple. Je nomme des choses un peu au hasard, là, mais mes identités apparaître et disparaître. Je ne suis pas toujours un fils, moi. Parfois, je suis un fils tout à coup, pendant quelques secondes, quand je me rappelle que je n'ai pas téléphoné à une certaine personne. Oups, tout à coup, je suis un fils. Je ne suis pas toujours un homme gay, mais parfois je le suis. Oups, ça apparaît dans mon expérience, ça devient très clair. Puis oups, ça disparaît. Et je peux peut-être apprendre à vivre avec des identités plus fluides. Donc encore cette idée-là de fluidité, de malléabilité, de flexibilité. Si j'ai vraiment cru, par exemple, que je suis... Je sais pas, à une certaine époque, j'étais très identifié peut-être à être un acteur. Mais là, sans contrat, un acteur, ça va mal, parce qu'un acteur, c'est un rôle, c'est une fonction. Je suis un acteur, mais personne. j'ai rencontré souvent, ça nous arrive, on est identifié à des trucs, hein, à être parent. Tout à coup, les enfants partent, puis vont vivre leur vie. C'est bien de voir l'identité de parent naître et disparaître dans la journée. Toutes sortes de trucs comme ça, là, il y en a plein, là, on ne les nommera pas toutes, là, mais toutes nos diversités, nos identités. Est-ce qu'on peut avoir un moi qui soit fluide, là, au lieu de rigide? Bon, c'est quelques idées sur la pratique. Peut-être que demain, à l'autre enseignement, je continuerai avec les caractéristiques universelles. Il y en a trois. On va garder un certain suspense pour certains d'entre nous. Et si vous quittez, vous pouvez vraiment avoir beaucoup de gratitude envers les personnes qui vont s'occuper des enregistrements comme ça ou du fait que vous pouvez aller à la maison, wiki, trois caractéristiques universelles, bouddhisme, soulagé. Je sais quelles sont ces trois caractéristiques maintenant. OK. Alors prenons juste un petit moment de silence. Laissons se dissiper les paroles. Peut-être qu'on peut prendre un moment pour souhaiter bonne route à ceux qui vont partir cet après-midi, là, qui s'étaient joints à nous. En leur souhaitant beaucoup de bien-être, la sécurité dans leur déplacement. Aussi une gratitude pour avoir créé cet espace-là pour qu'on puisse pratiquer ensemble. Puis de la même façon, pour ceux qui partent, peut-être qu'on pourrait avoir un souhait de bien-être pour les gens qui restent, que la retraite se passe bien, que le silence soit riche, libérateur. Puis pour tous nous autres, que notre pratique soit vraiment nous soit utile, nous aide à vivre, mais aussi que serve à ce qu'on puisse apporter du bien-être aux autres, qu'on contribue à notre société. Qu'on soit des agents de paix, de joie, de liberté.